Info Congolais présenté par Alain Rombe.
Bonsoir. Face à la crise financière qui secoue l'Europe et au défi de l'organisation des élections, le gouvernement, à travers le ministère des Finances, dit avoir pris une série de mesures pour stabiliser les finances publiques. Il s'agit notamment de la rationalisation des dépenses de l'État. Comment analyser cette décision du gouvernement? Trois invités participent à cette émission. Lems Kamoigna, économiste et coordonnateur adjoint du projet d'appui au secteur des mines, une structure du gouvernement central. Monsieur Kamoigna, bonsoir.
Bonsoir.
Dim Diambwana, expert en fiscalité et membre de l'Institut des experts comptables conseils fiscaux basé en Belgique. Monsieur Diambwana, bonsoir. Voilà, il va nous rejoindre dans un tout petit moment. Lajos Bidiou, député national de l'opposition et membre du sous-groupe dépenses d'investissement des budgets 2009, 2010 et 2011. Il est membre de la commission économique et financière à l'Assemblée nationale. Il va également nous rejoindre dans un court moment. Vous êtes déjà très nombreux à nous envoyer vos réactions. Carlos Betoffé, je salue ces mesures salutaires que le gouvernement a prises malgré la crise financière qui sévit en Europe maintenant. Maîtriser l'inflation en cette période électorale est une preuve que l'économie congolaise a amorcé son décollage. Marie-Ange Chimongembui, félicitations au gouvernement congolais pour la énième mesure visant à stabiliser les finances publiques, mais l'important est de voir toutes ces bonnes mesures avoir des retombées positives sur le social du Congolais. Dans le cas contraire, ces mesures salutaires de l'extérieur qui font de la RDC notamment un bon élève du FMI constituent une arme qui tue à petit feu le social du Congolais. Bienvenue à tous dans votre émission.
Vous pouvez continuer à envoyer vos réactions en appelant au 081 890 66 78 ou nous écrire par SMS au 081 051 57 78 et par mail, écrivez-nous à tech@radiookapi.net.
Le ministère des Finances et les conseillers économiques des ambassades en fonction à Kinshasa se sont retrouvés le week-end dernier pour la réunion mensuelle. Au menu de la rencontre, l'évaluation de la situation économique et financière de la RDC pour le mois d'octobre. Pour le directeur de cabinet du ministre des Finances qui a présidé la rencontre, les indicateurs macroéconomiques sont sous contrôle. Les détails avec vous, Daniel Tambinzoni.
Malgré la situation économique et financière moins reluisante à l'échelle internationale et le contexte électoral en cours en RDC, le gouvernement s'est tiré d'affaire en mettant sous son contrôle les indicateurs macroéconomiques, a indiqué le directeur du cabinet du ministre des Finances. La situation est sous contrôle, a dit José Seleyalagouli, mais les opérations financières cumulées au 30 octobre 2011 se sont soldées par un déficit de plus de 103 milliards de francs congolais. C'est un exploit, a-t-il dit, pour le gouvernement qui a réussi à réduire ce déficit programmé de plus de 156 milliards de francs congolais. L'application stricte du plan de trésorerie et la rationalisation des dépenses sont les éléments qui ont concouru à cette baisse de déficit, a-t-il argumenté. La paie des arriérés de salaire de l'armée, de la police, des enseignants de l'EPSP et des fonctionnaires de Kinshasa, la prise en charge du processus électoral pour un montant global de 307 millions de dollars américains depuis décembre passé, la poursuite des travaux d'infrastructures scolaires et sanitaires pour un coût mensuel moyen de 10 millions de dollars américains au lieu de 16 millions ont été privilégiés au détriment d'autres besoins.
Merci Daniel Tambinzoni. Avant d'aborder les mesures prises par le gouvernement, je vous propose à titre pédagogique que l'on aborde d'abord la crise financière qui sévit en Europe. Dim Diambwana, bonsoir, vous êtes en ligne?
Oui, bonsoir, monsieur Alain.
Voilà. Vous résidez en Belgique, l'Europe est en crise. Quelles sont les causes qui ont provoqué cette crise? Et ensuite, cette crise pourrait-elle affecter l'Afrique et la RDC en particulier?
Oui, pour ma part, il y a deux causes en fait de cette crise. Donc, il y a la cause que tout le monde connaît à propos de qui est partie des États-Unis en fait avec tout ce qui est subprime. Donc, qui a montré l'inefficacité au fait de la gestion des banques. Étant donné qu'aujourd'hui, le monde est devenu un village planétaire, il y a les sociétés qui sont liées entre elles, il y a eu un effet domino jusqu'ici en Europe. Il y a ce qui a poussé, en fait, l'État pour se gérer et essayer de sauver les banques, parce que les gens n'avaient plus confiance à mettre leur argent dans les banques. Ça, c'est la première cause. Et la deuxième cause, ce que nous voyons aujourd'hui, il y a beaucoup de sociétés qui se délocalisent. Donc, on va chercher là où il y a des main d'œuvre à moindre coût. Donc, pour essayer pour donner, en fait, plus de dividendes aux actionnaires. C'est dans ce sens que, étant donné qu'il y a cette délocalisation des entreprises, les États aujourd'hui cherchent à être plus protectionnistes, cherchent à garantir à leurs administrés, à leurs habitants, en fait, des emplois sûrs. Et la répercussion qu'il peut avoir en Afrique, déjà avec le problème des banques, qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons que les gens ne sont plus à mesure d'acheter autant les matières premières comme ils l'achetaient auparavant. Donc, dans ce cadre, il y aura forcément une répercussion en Afrique parce qu'il n'y a pas de financement comme c'était dans le temps où les banques pouvaient payer de l'argent aux actionnaires pour pouvoir acheter et investir convenablement. Donc, sur ce, il faut maintenant chercher à prendre des mesures que chaque économie, donc, que ce soit en Europe ou en Afrique, que chaque économie puisse trouver, prendre des mesures pour pouvoir s'autosuffire et relancer le secteur économique. C'est ainsi que, ici en Belgique, l'État essaie de relancer l'activité économique pour stabiliser le cadre macroéconomique.
Alors, Dim Diambouanassi, je vous comprends, étant donné que ces banques qui sont aux États-Unis ont leur succursale, leur représentation en Afrique et en RDC, les conséquences sur l'économie congolaise sont palpables.
Oui, effectivement, parce que je dis que les banques, ces banques qui prêtaient de l'argent aux actionnaires, qui prêtaient de l'argent quand il fallait investir le grand montant. Et maintenant, étant donné que ces banques ne sont plus à même de pouvoir prêter parce qu'il y a une certaine méfiance, il n'y a pas plus d'argent qui tourne, aujourd'hui, ces banques sont un peu plus réticentes par rapport à des investissements dans la rentabilité, à des investissements qui représentent vraiment des risques. Et nous savons qu'aujourd'hui, l'économie avec une situation politique qui se passe au Congo. Il y a une certaine réticence par rapport à l'investissement sur terrain. Donc, beaucoup de gens ont peur de pouvoir investir parce qu'ils se disent que le climat peut-être, il n'y a pas une sécurité juridique, une sécurité par rapport à leurs affaires. Et dans ce cas, c'est tout à fait normal qu'ils puissent avoir... qui puisse être réceptif par rapport aux investissements de ce type. Mais donc dans tout ça, ce que moi je préconise, c'est que chaque État puisse chercher des solutions afin de pouvoir relancer l'économie. Parce que même ici en Belgique, nous voyons que il y a des sommets, il y a des réunions, tout le monde cherche à pouvoir relancer le secteur de leur secteur économique. Tout le monde cherche des moyens pour pouvoir assurer une croissance économique et surtout garder les emplois stables face à cette mondialisation.
Merci. Lems Kamoigna, vous êtes économiste et coordonnateur adjoint du projet d'appui au secteur des mines, une structure du gouvernement central. Mais beaucoup d'autres analystes pensaient que par le fait que l'Afrique soit sous-bancarisée protégerait quand même l'Afrique de cette secousse qui sévit en Europe.
Oui, moi je pense, parce que je crois qu'il y a quelques précisions qu'il faudrait donner. Ce n'est pas toute l'Europe qui est en crise. On parle spécialement de la zone euro.
Exactement.
Parce que vous savez, même en dépit du fait qu'il y a plus de 25 pays qui sont aujourd'hui au sein de l'Union européenne, tous ces pays n'utilisent pas l'euro comme monnaie commune. Il y a des pays comme la Suisse, comme l'Angleterre, qui ont préféré garder leur propre monnaie. Et actuellement, la crise qui se passe en Europe, C'est une crise qui s'est vue plus au sein de la zone euro. Et l'origine provient du fait que les pouvoirs publics de différents pays qui sont dans la zone euro, donc l'État de ces différents pays, ce sont les États qui, pour la plupart, s'endettent auprès des banques pour faire face à leurs dépenses, soit de fonctionnement, soit d'investissement. Et vous savez que les pays européens, surtout les pays de vieille démocratie, ce sont des pays pour lesquels le niveau de prise en charge ou de la dépense publique est tellement élevé pour arriver à améliorer la qualité de vie et les conditions économiques de leur population. Alors, au moment où un État n'a pas assez de moyens, n'a pas assez de recettes de rentrée fiscale par rapport à ses différentes dépenses à caractère social et de fonctionnement, ces États recourent plus au crédit bancaire. Alors, comment ces États comptent payer ces crédits en espérant prélever davantage d'impôts sur l'économie, sur les sociétés qui existent et qui fonctionnent? Or, comme mon prédécesseur vient de l'expliquer, actuellement, vous avez beaucoup d'entreprises au niveau de l'Europe qui, pour être compétitives, se sont délocalisées dans les pays asiatiques, particulièrement en Chine, ce qui fait qu'il y a peu d'entreprises qui produisent dans ces pays européens qui ont atteint à un certain moment les maximums de leur potentiel économique. Et ces entreprises ne sont pas, et ces États ne sont plus en mesure d'élever beaucoup d'impôts pour faire face à leurs dépenses courantes. Le fait qu'elles manquent, que ces États manquent les moyens financiers pour payer les banques, et ils mettent ces banques-là en difficulté. Or, vous savez, quand on parle de banques, on préfère parler d'un système bancaire. Quand on dit système bancaire, on suppose que toutes les banques sont liées comme nous voyons les différents maillons de chaîne. Si un maillon se casse, c'est l'ensemble de ce système qui connaît des troubles, qui connaît des problèmes. Et c'est la situation qui se passe aujourd'hui au sein de la zone euro. Par exemple, la faillite de l'État ou les problèmes financiers qui rencontrent l'État grec, par le fait que l'État grec s'est emprunté auprès de certaines banques, si l'État grec ne rembourse pas à ces banques risquent de tomber en faillite, et en tombant en faillite, cela va affecter l'ensemble du système financier européen. Et voilà les craintes, et voilà pourquoi des pays comme la France ou l'Allemagne, qui est la première économie de la zone euro, s'élèvent pour éviter que les répercussions bancaires ne puissent s'appliquer sur l'ensemble de l'économie de la zone euro.
Alors,
si nous voulons juste apposer ça par rapport à nos économies, où est-ce qu'on peut avoir la crainte? Nous pouvons avoir la crainte quand on regarde les échanges que nous entretenons avec la plupart de ces pays européens. Est-ce qu'actuellement, comme nous sommes plus exportateurs des matières premières, est-ce que le fait que nous vendons nos matières premières, ces matières premières vont-elles manquer des preneurs du côté de la zone euro? Ça, c'est un premier mécanisme à travers lequel nous pouvons voir si nous pouvons être affectés. Un deuxième mécanisme, par exemple, est voir les niveaux de transferts ou d'investissements qui quittent les pays européens vers les pays africains. Est-ce que cela peut nous affecter? Ça peut nous affecter à un degré assez faible, mais pas avec autant d'intensité que cela se vit actuellement dans les pays européens.
Merci. La Jospidiou, bonsoir, honorable.
Bonsoir, monsieur Guy.
Voilà, c'est Alain Irung. Vous êtes député national de l'opposition et membre du sous-groupe Dépenses d'investissement des budgets 2009, 2010 et 2011. Également membre de la Commission économique et financière à l'Assemblée nationale. Les deux précédents interlocuteurs l'ont abordé, mais il faut noter également que cette crise financière a aussi touché, la crise financière de la zone euro a également touché l'Amérique latine en termes de baisse de commandes, de disparition de l'investissement étrangers et des chutes des transferts des devises envoyées par les immigrés. Lems Kamwanya pense que la RDC, l'Afrique, serait touchée, mais pas autant qu'on le craignait. Est-ce votre avis également?
Ben, écoutez, c'est vrai que dans une certaine mesure, la RDC ne devait pas être touchée par rapport aux pays européens. Mais tout simplement, c'est quoi? Le problème, c'est que l'Europe fonctionne en tant qu'entité. Vous vous souviendrez que les années 80, le président français François Mitterrand, à l'époque, voulait une Europe économique. Et c'est là, il a été accompagné dans cette vision par Helmut Kohl et les autres dirigeants européens de l'époque. Il est évident aussi que la Grande-Bretagne, qui craignait que la monnaie, la livre sterling, qui est une monnaie forte, puisse s'affaiblir si la Grande-Bretagne adhérait à l'euro, donc la monnaie commune. Nous pensons qu'aujourd'hui, on peut donner raison à la Grande-Bretagne d'avoir non pas à refuser, mais peut-être d'avoir temporisé par rapport un peu à certains pays membres de l'Union européenne, c'est-à-dire avec qui ils partagent la monnaie commune, mais qui avaient déjà dès le départ des économies faibles. C'est-à-dire que lorsque vous voyez, par exemple, la Grèce, lorsque vous voyez le Portugal, lorsque vous voyez l'Espagne, déjà, avant leur entrée dans l'Union européenne, ce sont des pays dont les économies étaient faibles, qui ont dû relancer leur économie grâce à la solidarité européenne. On me dira sans doute que comment se fait-il que l'Italie, qui déjà jadis faisait partie du G7, donc de 7 pays le plus industrialisé du monde, puisse aujourd'hui être aussi secoué. La preuve en est que le Premier ministre vient de démissionner, mais la France elle-même aussi est dans une grave difficulté. Mais vient de connaître, en l'espace, je dirais, de 3 ans de secousse. Donc, à partir de 2008, c'est parti avec les grandes banques américaines et les grandes banques européennes aussi, qui ont fait malheureusement victimes des mouvements de spéculation. Ben, et qui n'ont pas été alertés avant. Voilà pourquoi les pays européens, puisque c'est d'eux qu'il s'agit aujourd'hui, se retrouvent dans une situation difficile. Mais je suis convaincu que leur aptitude et leur capacité à vaincre les obstacles, je suis moins convaincu que ça prendra peut-être 6 mois, ça prendra peut-être 1 année, mais les Européens vont s'en sortir. Dans ce qui concerne notre pays, si nous sommes en difficulté, ce n'est pas à cause des difficultés de l'Union européenne. Ou c'est tout simplement, peut-être qu'on en parlera, c'est tout simplement de la manière dont les finances publiques sont gérées au niveau des pays africains, de manière générale, mais au niveau de notre pays de façon particulière.
Merci, honorable Bidiou. Puisque vous abordez déjà la question, Lems Kamwanya, le gouvernement, dans cette atmosphère, dans ce contexte international, le gouvernement affirme que les indicateurs macroéconomiques sont sous contrôle. Cette déclaration n'est-elle pas, entre guillemets, excessive quand on sait que le cadre macroéconomique, son contrôle est la conséquence d'une bonne gouvernance établie dans le temps?
Maintenant, je crois que cette question, souvent, beaucoup de gens l'abordent avec beaucoup de sentiments ou bien avec une interprétation qui soit erronée. Quand on parle cadre macroéconomique, il y a des indicateurs précis qu'on utilise en finance pour mesurer le cadre macroéconomique. On prend par exemple le niveau d'inflation, on regarde par exemple la conduite des opérations des finances publiques, notamment les soldes qu'il y a au niveau des opérations financières de l'État, on regarde par exemple le niveau de stabilité de la monnaie. Ce sont des indicateurs objectifs et quantifiables. Donc sur ces points-là, il ne faudrait pas que les gens considèrent que les finances publiques, c'est une culture générale, c'est une science où on vous dit si tel indicateur sont stables, à ce moment-là, on vous dit que votre cadre macroéconomique est stabilisé. Ce que les gens font, c'est des supputations pour dire non, comment si c'est stable, pourquoi nous on ne mange pas? Non, c'est ça, il n'y a aucun rapport entre ça, c'est-à-dire vous maîtrisez les agrégats financiers et monétaires de votre système économique qui crée un environnement favorable à l'investissement. Dans ces pays, personne ne peut nier aujourd'hui que la monnaie est stable. Personne ne peut nier aujourd'hui qu'il y a quand même une amélioration de la gestion des finances publiques où il n'y a pas beaucoup de déficits. C'est d'ailleurs le thème que nous allons aborder dans cette émission. Personne ne peut nier que les niveaux de prix n'augmentent pas à des degrés assez élevés. Donc ce sont autant d'indicateurs financiers objectivement vérifiables qui nous permettent d'apprécier ce qu'on appelle la stabilité du cadre macroéconomique. Alors, les avantages, vous les voyez à long terme. Lorsque vous avez, comme là, on vient de passer deux ans pratiquement où la monnaie est stable, l'inflation c'est moins de 10%, on regarde que du côté des opérations financières de l'État, il y a de plus en plus une stabilité, il y a une bonne conduite dans les recettes et les dépenses. Ça, c'est un environnement qui permet aux gens de dire, nous pouvons venir investir et il n'y aura pas de confusion dans nos calculs économiques. Donc ça se traduit à long terme plutôt par un accroissement d'investissement et par une croissance économique qui sera de plus en plus soutenue. Donc voilà un peu autant d'éléments qui nous permettent de dire qu'il y a une stabilité du cadre macroéconomique.
Alors, honorable Lajos Bidiou, avant de redonner la parole à Dim Diambwana, vous parliez de la mauvaise gestion des finances publiques, mais Lems Kamwanya pense le contraire et en plus on est en période électorale.
Mais écoutez, je respecte son opinion parce que c'est son opinion. Mais notre cadre macroéconomique, par moment d'ailleurs, nous nous sommes interrogés au niveau de la Commission économique et financière. Est-ce que notre cadre macroéconomique est-il réel ou est-il fictif? Parce que lorsqu'on fait comprendre les éléments constitutifs du cadre économique, mais personne ne va réellement au niveau de l'intérieur pour savoir de manière exacte quelle a été la production, quels ont été les investissements. Souvent, on se limite à prendre les éléments constitutifs du cadre macroéconomique au niveau des cités urbaines, comme la ville de Kinshasa, de façon particulière. Mais bon, on peut aller peut-être jusqu'à Lubumbashi. Mais la République démocratique du Congo, c'est un tout. Ce n'est pas seulement le Katanga, ce n'est pas seulement Kinshasa, ce n'est pas seulement le Bas-Congo, mais c'est l'ensemble du territoire national. Certes, la monnaie a été stabilisée entre guillemets, parce que, et mon co-débatteur ne va pas me contredire, lorsque vous regardez, par exemple, de 2006 jusqu'à ce jour, vous verrez que le sac de riz qui a coûté, par exemple, en décembre 2006, $25 ou $25,000, aujourd'hui, vous trouvez le sac de riz à $60,000 congolais. Mais lorsque vous voyez une bouteille de Coca, je ne fais pas la publicité du Coca-Cola, mais lorsque vous voyez la bouteille de Coca qui coûtait hier, donc en 2006, 150 francs, aujourd'hui, vous la trouvez à 500 francs. Lorsque vous prenez le litre du pétrole que nous avons acheté en 2006 à 300 francs, aujourd'hui, il est à 900 francs, 1000 francs, mais de quelle stabilité est-ce qu'on peut parler d'une manière correcte? Bon, je ne voulais pas dire qu'aucun effort n'a été fait, n'a été réalisé par le gouvernement, mais pour le commun des mortels, pour le Congolais, qu'est-ce qui l'intéresse? C'est de voir un peu ce qu'il a dans son panier, ce que nous appelons communément le panier de la ménagère. Mais si, hier, avec 10 000 francs, une dame pouvait rentrer avec un panier plein de... peut-être un peu de poisson salé, un peu de légumes, un peu de haricots, un peu de tomates, mais qu'aujourd'hui, avec 10 000 francs, elle ne sait plus s'approvisionner comme elle s'est approvisionnée il y a 5 ans, il y a 6 ans. Mais c'est qu'il y a un problème. Vous pouvez tout dire à cette dame-là, que les indicateurs macroéconomiques sont au vert, mais elle ne voit pas vos indicateurs macroéconomiques. Elle voit ce qu'il a dans son panier et ce qu'il avait dans son panier il y a 5 ans ou il y a 6 ans. Merci. C'est ça le vrai problème. À moins que nous puissions nous retrouver dans un pays avec une économie à double vitesse. C'est-à-dire une économie pour ceux qui ont des moyens et une économie pour ceux qui n'ont pas de moyens. Merci. La science, j'en suis convaincu, parce que même lorsque nous devons parler des statistiques, mais est-ce qu'on donne même les moyens aux gens pour aller dans les coins et recoins pour avoir les éléments constitutifs qui peuvent permettre de décider? Merci. Mon co-débatteur sait, je ne voudrais pas entrer dans les détails, c'est de quelle manière on trouve le cadre macroéconomique pour que, au niveau du budget national, par exemple, qu'on puisse dire, voilà ce que représente notre cadre macroéconomique. Mais le cadrage Merci. Macroéconomique, il est pratiquement vicié, il est pratiquement, enfin, à la limite, presque fictif. Merci. Presque fictif, je l'ai dit.
Merci. Dim Diambouana, vous êtes expert en fiscalité et membre de l'Institut des experts comptables conseil basé en Belgique. L'honorable Bidiou se pose la question de savoir si réellement le cadre macroéconomique congolais est réel ou fictif ou virtuel. On se souvient que le Parlement a produit par exemple beaucoup de rapports où la gestion financière est remise en cause, où il est fait état de beaucoup de détournements, beaucoup de malversations financières. Quelle est votre analyse?
Je suis déjà très content d'avoir un député sur le plateau. Parce que pour avoir aussi plus de clarification par rapport à ces problèmes. Parce que nous savons que les finances publiques dans un pays est, comment on se traduit par rapport à au budget. Parce que le budget, nous savons que c'est l'acte qui a été produit, l'acte législatif produit, voté par le Parlement. Et sur le plan politique, nous savons que l'État a fixé un objectif qu'il doit atteindre et a mis des moyens en œuvre pour pouvoir parvenir à ses objectifs. Donc, si nous voyons dans ce cadre, en fait, il y a des recettes, donc des recettes courantes et des recettes en capital que l'État a dit que nous allons avoir et des dépenses que l'État a dit que nous allons effectuer par rapport au budget. Mais dans ce cadre, en fait, nous voyons par rapport aux dépenses qu'il y a des fonctionnements courants, en fait, qui sont des fonctionnements courants de l'État, en fait. Donc, il y a des émoluments qu'on doit payer des traitements des fonctionnaires, des traitements qu'on paye aux fonctionnaires, ainsi que des fournitures de bureaux qu'on peut acheter, en fait. Mais est-ce que, par rapport au budget que les députés votent, est-ce qu'ils regardent l'exécution de ce budget par rapport à ce qu'ils avaient prévu, par rapport à la politique que l'État est venu devant eux pour pouvoir leur dire? Donc, sur ce, j'aimerais bien plus avoir des explications. Parce que j'ai vu, en ce moment, on a dit qu'il y a eu des réformes que l'État compte faire, réaliser. Mais sur ces réformes, est-ce que ce qu'il a...
Voilà, nous avons perdu Dim Diambwana. La réalisation va tenter de le retrouver. Lems Kamoigna, on vous retrouve juste après cette réaction qui nous vient de Kolwezi Okatanga pour vous.
Professeur Ignace Ndala à Kolwezi Okatanga. Loin de minimiser le souci du gouvernement, je pense qu'il serait mieux que l'on se réserve de toute déclaration dont les résultats sont d'emblée douteux. Comment peut-on réduire les dépenses de l'État au moment où tous les dignitaires de l'État sont profondément baignés dans la campagne électorale? Il est difficile de concevoir cette démarche du gouvernement, là où la transparence et la bonne gouvernance sont une utopie. Le moment est mal choisi, qu'on se le dise.
Lems Kamoigna, j'ajoute cette réaction qui va dans le même sens d'Aline Riziki Kimonge d'Ouvira dans la province du Sud Kivu. Je me demande comment est-ce que le ministre des Finances parviendra à stabiliser les finances publiques quand on sait que presque tous les ministres, vice-ministres et gouverneurs des provinces sont non seulement candidats à la députation nationale, mais aussi certains sont accusés d'utiliser les biens et finances de l'État. Cette pratique n'entraînera-t-elle pas une situation de déficit budgétaire qui conduirait notre gouvernement à la politique de la planche à billets?
Ok, merci. Je crois que je vais répondre rapidement à ces doubles questions. D'abord, pour les premiers auditeurs qui essaient de fustiger la démarche du ministre des Finances, je veux peut-être porter à votre connaissance le fait que, au moment où notre pays a atteint le point d'achèvement de l'initiative PPT, la plupart des gens ont compris qu'il y a eu la remise de la dette. Mais on a oublié que cette remise de la dette était assortie par certaines conditions. Je prends un exemple très simple. Supposons on devrait rembourser un pays comme l'Italie 100 millions. Ils vous disent, écoutez, nous faisons une remise, au lieu de 100 millions, vous allez payer 10 millions. Mais 90 millions, ce n'est pas directement un gain acquis. L'Italie doit se rendre compte que l'argent que vous devrez utiliser pour rembourser cette dette, vous devez l'affecter dans ce qu'on appelle le secteur pauvre, c'est-à-dire la santé et l'éducation. Ce que fait le ministre des Finances, ce n'est pas un exercice comme pour plaire, comme pour faire voir aux gens que nous gérons convenablement. Il réunit tous les conseillers économiques des pays qui ont fait la remise de la dette. Il leur explique ce qui est rentré dans les caisses de l'État et les sommes qui devraient être dépensées dans le cadre du remboursement de la dette, mais qui ne le sont pas suite à l'annulation, et voir comment on a utilisé ces finances-là pour financer les secteurs pauvres, notamment dans le cadre du secteur de la santé et de l'éducation. Donc il ne faudrait pas qu'on prête les intentions, je ne sais pas, des intentions inutiles au ministre des Finances. C'est un exercice qui se fait chaque mois, ça n'a pas commencé aujourd'hui, ça se fait chaque mois et ça va continuer chaque mois avec tous ces pays qui nous ont fait bénéficier de cette remise de la dette. Maintenant, je reviens à votre deuxième question. C'est là que nous devons quand même avoir cette probité pour reconnaître ce qui se fait aujourd'hui comme travail au niveau du ministère des Finances. C'est-à-dire, il y a un plan de trésorerie. On a déjà défini quelles sont les dépenses qui doivent être engagées. Ne croyez pas qu'aujourd'hui, on est en train de dépenser à qui mieux quand l'argent tombe, qu'est-ce qu'on peut en faire? Il y a tout un plan de trésorerie. C'est ce plan qui est suivi, on regarde qu'est-ce qu'on peut avoir comme recette au courant de ces mois et quelles sont les dépenses que nous pouvons engager au courant de ces mois. Par rapport à cette période électorale, si le ministre des Finances vous a parlé d'avoir rationalisé les dépenses publiques, c'est-à-dire on a essayé de réduire les dépenses qui servaient autrefois au fonctionnement des institutions, étant donné que la plupart des animateurs des institutions font la campagne. Comme il n'y a pas de frais d'émission qui sont payés, comme il n'y a pas beaucoup de dépenses de fonctionnement, c'est ce qui se fait que le déficit qui a été réalisé est moins que ce qui a été prévu. Si aujourd'hui ces gens battent campagne, je crois que nous sommes à Kinshasa ici et partout au pays, tout le monde reconnaît que la campagne elle est timide parce qu'il n'y a pas de moyens, et la plupart des députés et des autres candidats se plaignent qu'il n'y a pas de moyens. Si aujourd'hui le gouvernement utilise les moyens publics, quand on dit moyens publics, parfois on voit véhicules, on voit par exemple les autres attributs de pouvoir, mais ne pensez pas que le ministère des Finances est en train de leur donner les moyens financiers pour battre campagne. Ce sont des dépenses qui ne peuvent pas exister sur le plan de trésorerie du ministère des Finances. Ça, c'est vérifiable. Et si vous allez auprès de ces comités économiques de pays étrangers qui ont vérifié la situation des trésoreries du ministère des Finances, ils vous diront qu'il n'y a pas de ligne budgétaire. Au contraire, ce sont ces économies qui ont permis d'avoir un meilleur comportement des finances subies au cours de cette période. Nous devons quand même avoir cette simplicité de reconnaître les efforts qui sont accomplis.
Merci.
Alors, si vous me donnez une seconde.
Très rapidement, je vous en prie.
Je voudrais plutôt répondre à l'honorable. Lorsque nous parlons du cadre macroéconomique, il ne faudrait pas qu'on y mélange tous les aspects liés aux problèmes sociaux de la population, notamment les pouvoirs d'achat. Ça, c'est un autre débat, c'est une autre matière qu'on ne peut pas directement rallier au pouvoir d'achat. Je pense que peut-être prochainement, si Radio Capi le permet, il faut qu'il organise une émission pour voir quelles relations on peut établir entre la stabilité d'un cadre macroéconomique, quelles sont ses implications et quelles sont ses relations avec le pouvoir de la population. À ce moment-là, on pourra peut-être éclairer davantage la lanterne de la plupart d'auditeurs.
Merci, Lems Kamoigna. Il faut rappeler que tous nos efforts pour avoir un délégué du ministère des Finances dans cette émission sont restés vains. Merci à vous d'avoir accepté de participer à cette émission. Honorable Lajos Bidiou, vous réagissez juste après cette réaction qui nous vient de Lubumbashi au Katanga.
Yves Vouli, j'habite Lubumbashi, dans le Katanga. Il convient de noter que cette crise qui a conduit l'Union européenne et les États-Unis à recourir à la Chine donne raison à la RDC qui avait senti que la Chine était un bon partenaire. Quant aux mesures de stabilisation des finances publiques, il faut noter que c'est une disposition qui avait été dictée par le chef de l'État dans le but de prévenir la dérive dans la gestion de l'État pendant la période électorale afin de préserver les acquis des différents sacrifices consentis par l'ensemble de la population pour atteindre les différentes annulations de la dette de notre pays.
En d'autres termes, honorable Bidiou, le chef de l'État avait demandé que les institutions réduisent leur train de vie. N'est-ce pas l'une des conséquences?
Écoutez, merci. D'abord, je voulais vraiment en une seconde simplement dire à mon ami qui est avec vous là-bas que quand nous parlons du cadrage macroéconomique, nous parlons bien de la production. Quand nous disons la production, nous avons dit les éléments constitutifs qui sont pris en compte, c'est beaucoup plus pour les cités urbaines, c'est-à-dire que la ville de Kinshasa, la ville de Lubumbashi, peut-être le Bas-Congo, avec la production de ciment, la production de sucre, de la farine et ainsi de suite. Mais il n'y a pas que ça. La République démocratique du Congo ne produit pas que ça. Voilà pourquoi nous avons toujours pensé que notre cadre macroéconomique tel qu'il est présenté, il n'est pas représentatif de la réalité économique de notre pays. Bon, passons. En ce qui concerne les finances publiques, la gestion des finances publiques, bon, moi je voudrais bien croire, mais nous avons un budget. Lorsqu'un budget a été voté, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est de respecter son exécution. Or, il s'avère que l'exécution du budget, je prends par exemple le rapport de l'exécution du budget de l'exercice 2010, mais qu'est-ce qu'on retrouve là-dedans? Mais les dépenses qui n'ont rien à voir avec la création de richesses, c'est-à-dire l'investissement, toutes les dépenses ont explosé, qu'il s'agisse de la présidence de la République, qu'il s'agisse de la primature, qu'il s'agisse du ministère de la Défense, qu'il s'agisse du ministère des Affaires étrangères. Donc, je dirais que tous les ministères qui ont un peu de possibilité de faire peut-être de pression sur le ministre du Budget ou des Finances, les dépenses ont explosé et sont allées au-delà. Et ça fait problème. Le Premier ministre n'a même pas été capable de venir présenter le budget 2012 parce qu'il devait nous expliquer de quelle manière on a exécuté le budget 2010 avec des dépenses qui ont explosé au-delà de 3000%. Mais c'est grave, c'est une catastrophe. Donc quand on nous parle de réduire le train de vie des institutions, moi je suis d'accord, mais on doit réduire le train de vie des institutions en tenant compte du budget qui a été voté et promulgué par le chef de l'État. C'est une loi des finances. Et tout le monde doit respecter, toute loi de la République doit être respectée par tout le monde. Parce que nous disons, la République démocratique du Congo, c'est un état de droit et personne ni aucune institution ne peut être au-dessus de la loi. Alors, lorsque moi je vois ce que nous avons vu avec l'exécution du budget 2009, rien que le premier semestre, avec l'exécution du budget 2010, moi, je ne crois pas.
Même si mon ami, mon collègue qui est avec vous est en train de dire que le peuple est tenté de réagir parce qu'on voit effectivement les gouverneurs de province en train de battre les campagnes avec les véhicules de l'État, mais ces véhicules de la République, le carburant qu'on y met là-bas. C'est quand même le contribuable congolais qui est en train de payer. Le personnel, le chauffeur qui est en train d'accompagner, qui est en train de conduire ce véhicule, il est quand même payé, il est en mission de service, donc il est payé avec l'argent de la République. Alors que les autres, comme nous autres par exemple, lorsque nous battons campagne, nous utilisons le véhicule privé, donc lorsque je paye du carburant, c'est mon carburant que je paye. Mais ce n'est pas la même chose avec les gouverneurs de province, avec les ministres qui sont en train de battre campagne. C'est quand même difficile de comprendre qu'on a la volonté de réduire le train de vie des institutions pendant que ce qui s'est fait de manière visible sur le terrain, c'est tout le contraire de ce qu'on est en train de déclarer. Donc, ce qu'on dit n'est qu'une intention. Ce sont des intentions simplement, mais la réalité est tout autre chose.
Merci. Dim Diambouana, est-ce que vous êtes en ligne?
Oui, oui, je suis en ligne.
Voilà. Nous prenons cette réaction qui nous vient de Bukavu au sud Kivu pour vous.
Robert Bahome de Bukavu au sud Kivu. Pour la rationalisation des dépenses de l'État face à la crise financière internationale et au défi des organisations des élections, cette décision du gouvernement vaut tout son pesant d'or et c'est à saluer. Cependant, j'estime qu'elle intervient tardivement dans la mesure où il n'y aura rien de positif à en attendre. En tant que tel, c'est vraiment une décision inopportune.
Réaction d'Im Diambouana, cette réaction du gouvernement est-elle inopportune?
Oui, moi, pour ma part, je trouve que quand on parle de rationalisation, à ce moment, c'est qu'on a pu se rendre compte qu'il y avait une certaine irrationalité auparavant. Donc, si aujourd'hui, on veut dire qu'on essaie de rationaliser les dépenses, c'est une mesure qui aurait dû être prise dès le début. Avant, en présentant le budget, en essayant de voir que nous allons... Donc, prévenir déjà, nous arrivons à une période électorale. Et par rapport à cette période électorale, nous devrons faire tel genre de dépenses et cela nécessiterait tel genre d'application. Et aujourd'hui, arriver à quelque temps des élections et parler de rationalisation, je trouve que c'est une mesure qui a été prise peut-être en retard. Et j'aimerais bien revenir par rapport à la stabilisation du cadre macroéconomique que M. Lemps et le député faisaient allusion. Par rapport à ça, en fait, sur les chiffres que j'avais sur la croissance économique de la RDC, nous voyons qu'il y a quand même une évolution positive. Mais pour rejoindre les députés, moi, j'aimerais bien, par rapport à la stabilité des prix, on essaye vraiment que le rapport ou bien avec tous les documents du ministère des Finances essaie de nous dire les prix sont en fonction de quoi. Parce que nous ne devons pas nécessairement évaluer l'indice de prix par rapport à une certaine denrée. Et quand on parle du cadre macroéconomique, parlant carrément dans sa globalité, moi je pense par exemple à la croissance économique, à la stabilité des prix, à l'emploi et à l'équilibre carrément de la balance courante des opérations de tous les agents économiques. C'est dans ce sens que nous aurons carrément une vue globale, voir réellement ce qui a été fait et ce qui n'a pas été fait. Nous serons jugés rationnellement sur ce qu'il y aura à faire par la suite. Et donc, sur ce point, je trouve que le rapport, il est assez incomplet. Nous ne savons pas réellement comment juger sur les faits. Par rapport aux chiffres que j'ai entendus dernièrement, le Premier ministre a déclaré, nous pensons que nous sommes sur une bonne voie et nous allons vers une certaine amélioration des choses, mais une stabilisation comme telle, je ne pense pas pour le moment être vraiment effective sur terrain.
Merci à beaucoup d'auditeurs qui nous écrivent. Merveille Ngolombe Munganga en Tanzanie. Pendant tout ce temps où était le gouvernement congolais pour rationaliser les dépenses de l'État, ces propos du ministre des Finances ne sont-ils pas propagandistes? Le gouvernement n'a-t-il pas honte de sa mauvaise gestion qui laisse le pays dans le chaos? Grâce à l'Ikazigabe de Goma en Nord-Kivu, je crois que le gouvernement se lance sur une bonne voie dans la mesure où il serait possible de considérer que la série des décisions prises s'inscrivent dans un souci d'amélioration d'améliorer la gouvernabilité des finances publiques d'une part et d'assurer l'observance d'une éthique financière en période électorale d'autre part, puisque l'on sait que plus d'un mandataire public sera tenté d'utiliser les fonds publics pour financer sa campagne électorale. Glory Matondo de Mbanzangungu au Bas-Congo, je me demande pourquoi le gouvernement n'a pas pris des mesures pour juguler les effets de la crise financière dans notre pays au lieu de le faire en pleine période électorale. Il nous reste moins de 3 minutes pour terminer l'émission. Nous allons commencer la série des conclusions. Honorable Lajos Bidiou, quelle est votre conclusion?
Eh bien, écoutez, la conclusion, c'est que c'est bien, mais malheureusement, c'est un vœu pieux parce que d'ailleurs, tout le monde sait que en finances publiques, au 31 octobre, le budget de l'État, en fait, il n'est plus, on ne sait même plus ordonnancer les dépenses parce que on arrête. C'est tout ce qui a déjà été liquidé, engagé, liquidé ou lancé qu'on doit régulariser. Donc, nous sommes déjà en novembre, décembre, c'est une décision vraiment n'a rien à voir. Enfin, mais j'encourage, si réellement le ministre des Finances voulait rester rigoureux et qu'il veut être correct, que c'est pour aider la République démocratique du Congo de bien gérer ses finances publiques, bon, qu'il les fasse. Mais malheureusement, hélas, malheureusement, lorsque je vois ce que nous avons comme rapport d'exécution du budget, déjà en 2009, 2010, je ne crois pas trop à ce que le ministre des Finances dit.
Merci, honorable Bidiou. Dim Diambwana, un mot également en guise de conclusion.
Moi, j'aurais bien aimé que sur ce rapport du ministre, on parle réellement des mesures et des réformes qui auraient été prises pour pouvoir inciter les gens à investir. Parce que tout ce que nous souhaitons, c'est qu'il y ait plus d'investissement, plus de création de richesses, plus d'emplois et que le cadre soit effectivement amélioré. Dans ce sens, on aimerait bien savoir les réformes en matière fiscale, en matière d'investissement, en matière de création d'emplois, qu'est-ce que le ministère de Finances pense, sinon, au lieu d'étaler des chiffres sur l'exécution qui n'a pas encore été contrôlée. Moi, je
Merci.
Pense que par rapport à ça, ils devront faire leur travail.
Merci. Lems Kamoigna, conclusion, je vous en prie.
Oui, je pense que si les gens ont bien compris l'émission, le ministre des Finances venait de dire que les résultats positifs qu'on a constatés est dû à une série de mesures. Il ne faudrait pas qu'on pense que ce sont les mesures qu'on prend aujourd'hui qui vont sortir des effets. Les mesures ont été prises et elles ont eu comme effet le fait que le déficit a été moindre que ce qui était prévu.
Merci.
Et je demanderai à l'honorable, tout comme aux députés qui viendront, ce sont eux qui représentent l'autorité budgétaire, et quand ils font les budgets, ils doivent savoir qu'est-ce qui doit être payé à un policier au lieu d'accuser le gouvernement inutilement et qu'ils
Merci.
Ont... le contrôle parlementaire qui est le puissant moyen pour contrôler les gouvernements.
Merci Lems Kamoigna et je rappelle que tous nos efforts pour avoir dans cette émission un délégué du ministre des Finances se sont avérés vains. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez branchés sur Radio Capi, la radio de la paix. Au revoir et à demain.